Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute!
Cette initiative vous est présentée par Rinoc en partenariat avec le CRIJ Occitanie pour ce numéro. Ce podcast a pour but d'offrir aux acteurs des territoires des clés et des outils accessibles pour mener à bien des actions similaires dans le vaste domaine de l'inclusion numérique. Rinoc, c'est le hub pour un numérique inclusif d'Occitanie, porté par l'association La Mêlée, opéré par de nombreux partenaires en région et qui joue un rôle de dispositif d'appui sur des questions partout en région, donc sur les 13 départements, soutenu par la Banque des Territoires et l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. L'accès au numérique pour tous est à présent une ambition largement partagée en France, que ce soit vis-à-vis des 30% de la population en difficulté avec le numérique, ou pour ceux qui pourraient en faire bon usage au quotidien. Les 4000 conseillers numériques déployés dans les territoires ont constitué une réelle force vive pour y parvenir au travers du plan de relance, et à présent, le gouvernement souhaite écrire un nouveau chapitre de la stratégie nationale pour la période 2023-2027 en s'appuyant sur le niveau départemental dans le cadre de France Numérique Ensemble. D'autres solutions sont aussi déployées dans les différents ministères, et c'est notamment le cas au niveau de l'éducation nationale. En 2020, le gouvernement a lancé le programme d'expérimentation Territoire numérique éducatif et qui vise à mieux former les enseignants au numérique, à réduire la fracture numérique existant entre les élèves, à accompagner et à former les parents et enfin à permettre un accès facilité à des ressources pédagogiques de qualité. Différentes expérimentations sont en cours et notamment en Occitanie dans le département de l'Hérault. Alors quel est ce projet? Quel retour d'expérience peut-on en faire? Et surtout, quels enseignements peuvent être utiles à d'autres territoires qui souhaiteraient se lancer dans des démarches similaires? Et enfin, quelle peut être la place de la sphère de l'inclusion numérique dans ce type de démarche? C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Sabrina Caliaros, directrice de région académique du numérique pour l'éducation en Occitanie. Bonjour Sabrina. Et d'ailleurs, je voulais remercier le CRIJ pour son accueil aujourd'hui, qui est partenaire de ce podcast. Donc merci aux équipes de nous avoir reçus ici et qui participent en plus pleinement au projet Territoire numérique éducatif 34. Donc pour commencer, tout simplement, Territoire numérique éducatif dans l'Hérault, c'est quoi? Quels sont les enjeux du projet? On voulait en savoir un peu plus sur, déjà peut-être le numérique éducatif, le projet TNE, l'abréviation, et puis votre territoire, le projet, la date de démarrage, la durée, les partenaires, bref. Qu'est-ce que vous y avez développé?
Bonjour. Territoire numérique éducatif, c'est un projet national qui est né en 2020 avec deux démonstrateurs qui ont été les départements qui ont ouvert la voie, le Val-d'Oise et l'Aisne, et suivi après donc par 10 départements, dont l'Hérault.
La chance.
Oui, une très très belle opportunité. Donc c'est un projet France 2030, je crois l'avoir dit, qui permet, avec un budget extrêmement généreux de 11,5 millions d'euros, de permettre à notre territoire, avec le chef de file du département de l'Hérault, d'émerger en matière d'égalité sociale, élever le niveau des élèves, des enfants, permettre aux familles de mieux exercer leur mission d'éducation, notamment autour du numérique. Et avec 4 leviers que nous arrivons à conjuguer, je parle des équipements, de la formation, des ressources et de la parentalité numérique, bien sûr, que nous travaillons avec des opérateurs. Donc, j'ai parlé du SGPI, j'ai parlé de France 2030, je parle de Canopée, pour tout ce qui relève de la formation et des ressources allouées aux enseignants, et de la trousse à projet pour la parentalité numérique. En ce qui concerne l'Hérault, nous avons le bonheur et l'avantage de travailler avec le CRIJ pour ce volet parentalité numérique qui est extrêmement intéressant, mais aussi complexe.
Et vous avez commencé quand ce projet du coup? Pour quelle période?
Aussitôt après que les deux départements Val-d'Oise-et-Aisne sont entrés dans le dispositif en tant que démonstrateurs. Donc en 2021, on a commencé à travailler. C'est un travail de fond qui est à la fois un travail politique de gouvernance, hein, puisqu'il faut aller convaincre, mais n'a pas pris beaucoup de temps pour le faire parce que le département a été acquis, le département d'être chef de file de la région et chef de file des communes, dont nous avons 13 collectivités qui travaillent ensemble. C'est complexe, mais extrêmement enthousiasmant parce que on a de toutes petites communes, puis la ville de Montpellier, par exemple, hein, donc, ou la ville de Béziers, et avoir ces articulations en territoire rural aussi, puisque nous sommes sur les hauts cantons, mais aussi dans des métropoles, hein, comme celle de Montpellier, eh bien, ça fait peur au début, ça donne un peu le tournis, et puis il s'avère que c'est passionnant.
Et justement, on a entendu quelques axes, justement, ou les axes hein, de TNE 34. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'actions? Le plan d'action, je ne sais pas si il est très long hein, ou synthétique, mais quelles sont-elles ces actions justement développées au sein de TNE 34?
On a, nous avons, comme vous le savez, à l'école, premier degré, second degré, donc l'école, collège et lycée, et on ne travaille pas tout à fait de la même façon dans les deux systèmes, tout simplement parce qu'ils sont organisés différemment. Pour ce qui relève donc du chef de file, qui est le département de l'Hérault, il a la mission redoutable hein, d'être à la manœuvre du point de vue comptable, c'est-à-dire qu'il gère les fonds qui relèvent des équipements notamment, mais aussi des ressources pour les collectivités qui dépensent et qui ensuite sont bien sûr remboursées des frais, des investissements qu'elles ont faits, et ce à concurrence de 70% pour l'État et 30% pour les communes. D'accord. Ça c'est pour les équipements. 50% pour les ressources.
Quel genre d'équipement
Alors, les équipements, je pense que nous avons travaillé plutôt intelligemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit équiper pour équiper, mais on a dit équiper pour un projet. Donc, on a proposé 12 thématiques au collège et au lycée, qui vont de la robotique en passant par data et compréhension du monde, mixité numérique, bref, c'est assez large. Et nous avons convenu avec la région et le département de quel type d'équipement nous avions besoin pour servir ces thématiques-là.
D'accord.
Donc, ça s'est fait très, très intelligemment, je crois. Franchement, il n'y a pas eu de divergence. On est tombé d'accord assez rapidement. Je souligne que nous avons un chef de projet côté département, un chef de projet côté académie, et dans chacune des communes, on a demandé à avoir aussi un référent. Ce qui fait que, voilà, les choses se passent, je pense, au mieux. Donc ça, c'est pour les thématiques du second degré. Et dans le premier degré, on a essayé de travailler sur les mêmes choses, c'est-à-dire que on est parti de la robotique, on est parti des Fab Labs, on est parti de ce qui fait que la classe déborde sur le monde à un moment donné, et c'est très bien comme ça. Donc à partir de là, on a eu, grâce au marché Capacé Canopé avec les tech éditions à ce moment-là, 69 ressources proposées en 14 lots, lesquelles ressources sont gratuites pour les enseignants. Et le tout ensemble fait que, bah, a priori, les conditions sont réunies pour que ça fonctionne mieux.
D'accord, donc on a d'un côté les acteurs qui sont sur les territoires et notamment les collectivités qui vont un peu piloter, participer à faire remonter les besoins, peuvent déployer, qui sont elles-mêmes accessibles voilà, via un catalogue, si je comprends bien, avec
KNP.
Et aujourd'hui, bon, ça m'a l'air assez complet. Et quelles actions vous avez pu développer justement aujourd'hui, à ce jour? On a entendu parentalité numérique, est-ce qu'il y a d'autres sujets peut-être qui, à ce stade du projet, ont pu être déployés justement?
Ce qui fait notre fierté, entre guillemets, parce qu'elle est partagée partout, ça, c'est le fait d'avoir réussi une gouvernance efficace, qui fait que c'est une gouvernance partagée, évidemment, puisqu'entre État et collectivité, voilà, on a des sujets communs, sans jamais se marcher sur les pieds, et ça c'est parfois complexe, hein. En tout cas là on a réussi. Et que l'on soit un petit poussé ou un géant, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a plus de droits que l'autre. Hein. Et ça, je pense que c'est une réussite. Alors, elle tient à quoi?
Ça, c'est déjà un livrable, quoi.
Ouais, ça, c'est un livrable. Enfin, j'espère.
Cette gouvernance-là,
oui.
Justement.
Oui, okay. Oui. Et puis le fait qu'on entre dans la logique de l'autre pour mieux travailler ensemble. On n'est pas que dans son métier, on essaie de comprendre quelles sont les contraintes d'une collectivité. Il y en a beaucoup, notamment tous les temps de vote, de conviction auprès des élus. Voilà. Il faut le prendre, ce temps-là. Et nous, c'est pareil, de l'autre côté, évidemment, mais pas forcément avec des articulations de calendrier. Donc ça c'est important. Cette gouvernance, elle repose aussi sur la transparence. C'est-à-dire qu'on a une plateforme que nous partageons tous, avec les droits associés, bien sûr, hein, selon que l'on est le comptable ou côté usage. Et donc, tout le monde sait où on en est, des dépenses de l'un, des dépenses de l'autre, quelle acquisition, pour faire quoi. Voilà. Donc ça, c'est la transparence. Et ce qui donne de la vie à la transparence, ce sont les comités. Donc, comité de pilotage, comité stratégique et comité technique, avec des temps relativement rapprochés au début du projet pour mettre tout le monde en confiance. Et puis maintenant, on est un peu plus, comment dire, rodé, on a une marge temporelle un peu plus large.
Et parmi ce qui a été déployé, du coup, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes qui ont bien fonctionné, selon vous, au CRIJ, avec le conseil départemental, avec le rectorat, aujourd'hui?
Oui, Alors, je pense que ce qui fait l'originalité de notre projet en Occitanie, et enfin, typiquement dans l'Hérault, c'est l'utilisation de la donnée.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que, historiquement, si vous voulez, l'opportunité nous avait été donnée d'entrer dans data.gouv.fr. Donc, open data. On nous avait dit, on vous crée un sous-domaine, dataoccitanie.gouv. Donc, au début, je savais pas trop à quoi ça allait servir. Je me suis dit, ça doit servir à quelque chose. In fine, donc, on prend. Donc, on l'a pris. Et donc, on s'est habitué, entre guillemets, à, mettre en open data des données du type réussite au DNB, les labels, puisque nous avons label lycée, label collège et label école. Bref. Donc, cette culture de la donnée, on s'est dit, il faut la faire vivre pour TNE. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent public et que rendre compte des politiques publiques et de l'argent l'utilisation qu'on en fait, ça me semble être la moindre des choses. Et donc, on a un observatoire TNE qui est dérivé de la plateforme dataoccitanie.gouv, mais qui est un site web et qui permet de data visualiser tout. Donc, en essayant d'éviter des biais, bien sûr, parce qu'on n'est pas exactement sur de l'impact. On peut pas parler d'impact direct parce que il faudrait que nous ayons des données très stabilisé à l'entrée, au milieu, à la fin. Donc, on commence à avoir cette culture de la donnée nettoyée, faire, facile à trouver, accessible, interopérable, réutilisable et soutenable, parce qu'il faut qu'elle soit présente tout au long du projet. Mais c'est un métier, et c'est pas le mien. Donc, on apprend. On a un data scientist qui nous aide. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on partage avec les collectivités ces données-là. Et donc, c'est plus du pilotage aux doigts mouillés, pardon, mais parfois c'était un peu ça. Et là, on a un diagnostic de départ sur TNE qu'on a essayé de faire le plus transparent possible et efficace pour sélectionner les zones dans lesquelles il y avait un vrai besoin de développement. Quand bien même il y en a besoin partout, mais il y a des endroits où c'est plus vrai, malheureusement. Et à partir de ce diagnostic partagé avec les collectivités, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit où on en est, comment on avance. Donc, il y a la Banque des Territoires qui nous aide aussi beaucoup, puisqu'elle est un des opérateurs du SGPI sur ce beau projet. Merci de me poser la question. Secrétariat général aux investissements et je ne sais plus.
En tout cas, oui, c'est au niveau du service de l'État.
De l'État, Premier ministre, service du Premier ministre.
Voilà. Donc, on sent bien que vous avez développé une gouvernance, que vous l'avez outillée, que vous avez construit une vision au-delà du fonctionnement. Et ça, c'est l'une des premières étapes, j'imagine, dans le process.
C'était fondamental, déjà d'être en confiance. Ensuite, nous avons organisé des événements, parce qu'il est important de se retrouver sur des temps de convivialité, mais aussi des temps de travail. Et sur ces événements, il y en a eu plusieurs, de grande envergure, ce sont des temps où on essaie de se nourrir, puisqu'on fait venir des sachants, des chercheurs qui nous parlent du numérique éducatif, mais pas que. En général, c'est le matin. Ensuite, l'après-midi, il y a des formations pour les enseignants, pour les cadres aussi. Et nous faisons en sorte que la formation profite à tous, c'est-à-dire que l'on soit éducation nationale, ou pas, on peut suivre la même formation. Et là encore, ça donne des champs communs d'expertise à un moment donné et ça crée évidemment des alliances, voire de la solidarité. Un exemple, comme dans TNE, comme ailleurs d'ailleurs, mais c'est pas propre à l'Hérault, mais quand même, on s'est intéressé à l'enfant. Et dans tous les temps qui sont ceux de sa journée, à savoir avant l'école, pendant l'école, après l'école. Donc, tout le périscolaire se forme avec les enseignants. Et là, quand vous dites à une collectivité, vous allez investir et ça va vous coûter de l'argent, quand bien même l'État contribue, mais cet investissement ne va pas profiter qu'à l'école, mais pour tous les acteurs de l'école, y compris ceux, les animateurs que vous financez, ça change tout.
D'accord. Et du coup, on peut retrouver ces formations quelque part aussi, effectivement, mettre autour de la table tous les professionnels sur une tranche de vie et puis les faire monter en compétences, monter en compétences ensemble, j'ai même l'impression, d'ailleurs.
En croisant les expertises et les regards, parce que c'est fondamental aussi. Je me souviens d'un animateur qui s'est retrouvé avec un des professeurs des écoles dans laquelle il intervient et qui porte un regard sur un enfant différent de celui de l'enseignant. Et ils étaient en train d'en discuter. Un enfant peut être en classe à un profil qui n'est pas exactement celui qu'on attendrait, mais qui montre beaucoup d'autres choses de qualité en dehors de la classe. Et ce regard sur le même, mais regard différent, peut apporter énormément, et à l'un comme à l'autre d'ailleurs, au bénéfice de l'enfant. Et c'est ça qu'on recherche. Et pour parentalité numérique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, en tant qu'école avec un E majuscule, en disant « on va vous apprendre comment on fait ». Pas du tout, d'abord parce qu'on ne sait pas.
Comment ça se passe, cette action, justement, parentalité numérique, cet axe, comment il se déploie dans TNE ?
Alors, parentalité numérique, c'est le, un des écueils qu'on avait identifié pour l'alliance éducative, c'est-à-dire les parents qui entrent à l'école et qui font œuvre, comment dire, de participation sur conseil de classe. Oui. Voilà. Donc ça manquait énormément sur ces territoires-là, tout simplement parce que le niveau de diplomation était très faible sur ces territoires et que les parents ne voyaient pas l'école comme un lieu d'accueil. Pour leurs enfants, oui, mais pas pour eux. Donc, on s'est dit, bah, il faut rétablir cette alliance-là, ce lien qui est fondamental pour les enfants. Mais pas nous, puisque nous, déjà, on était institution. C'est pas bien, quoi. Et donc, on a demandé au CRIJ de nous aider dans cette approche-là, avec la trousse à projet. Et non pas en disant, on va faire du plus, mais on va faire avec. Et c'est toute la qualité du CRIJ dans son approche, et Marion Guig, pour ne pas la nommer, qui est allée vers les associations qui étaient déjà dans la politique de la ville avec les collectivités, en disant, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? Donc c'était une offre plutôt qu'autre chose. Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne bien, parce que les associations sont aussi très demandeuses d'apports extérieurs. Voilà. Et là, c'était un moyen de faire mieux.
D'accord. Donc on a noté aussi l'emploi ou la mobilisation d'un acteur, d'un service national, la trousse à projet. Ça en notera bien aussi, justement, dans les choses à transmettre à nos auditeurs. Et si on devait peut-être citer une dernière action qui a bien fonctionné, qui vous a marqué dans ce projet, qui pourrait éventuellement être peut-être reproduite même ailleurs.
Alors donc jusqu'ici j'ai parlé plutôt de la structuration.
Oui.
J'ai oublié de dire que notamment pour la parentalité, on a réuni jusqu'à 117 ateliers. Qui permettent donc de mettre en branle cette alliance éducative qui parfois fait défaut.
117 ateliers au total.
Sur l'Hérault, qui sont prévus en école, collège et lycée. Et c'est quand même important qu'on puisse être sur ce niveau-là. Le TNE, je l'ai dit, je crois, qui est un démonstrateur, est là pour faire la preuve, ou pas d'ailleurs, d'un dispositif. Et pour la formation, qui aujourd'hui, on le sait, est un élément clé. Dans le premier degré, il y a la possibilité, lorsqu'on prend une décharge, c'est-à-dire qu'on est à 80% de son temps d'activité, on doit à la DSDEN, c'est-à-dire la direction de l'éducation nationale, une semaine de son temps. Donc ça fait 14 demi-journées. Et ces 14 demi-journées, nous, on les a utilisées pour remplacer les professeurs qui allaient se former. C'est-à-dire que on a une espèce de ballon d'oxygène pour permettre à des enseignants d'aller se former sans avoir peur de laisser les élèves, bien sûr. Et on l'a fait aussi, alors ça c'est le dispositif, si vous voulez, organisationnel, mais on l'a fait en faisant venir d'autres enseignants dans la classe. C'est-à-dire que l'enseignant voit un autre enseignant fonctionner avec les élèves ou pas, quand il s'agit d'autres élèves que les siens. Et ça s'appelle des professeurs des écoles accompagnateurs des ressources. Et donc, les ressources qui sont proposées dans le marché dont je vous parlais, portées par Canopé, ou d'autres ressources utilisées dans la classe, on les voit en action. Ça n'a rien à voir que lorsqu'on voit un catalogue de ressources, dès l'instant où on les voit en activité pédagogique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est reproductible dès l'instant où le DAZEN, le directeur académique, a envie d'utiliser cette manne de temps pour se faire.
Donc, c'est un peu de la montée en compétences, là, cette fois-ci, en immersion. Donc, il y a vos rencontres professionnelles avec l'univers professionnel et des métiers autour de la jeunesse, puis presque la mise en situation, en tout cas en immersion, pour qu'ils découvrent toutes ces solutions.
Puis avec un pair. De pair à pair, ça a une autre valeur que lorsque c'est autrement, quoi.
Effectivement. Dans tout ce qui a été dit, là, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent faciles à faire ailleurs? Alors, je sais pas avec quel budget, là, je me rends pas bien compte du budget affecté à telle ou telle action, mais on sent que dans la logique et la démarche, finalement, il y a peut-être des choses à faire ailleurs, lesquelles seraient là comme ça, avec un budget constant, on va dire, réalisable dans un autre territoire.
Alors, en fait, nous, on a, avec le département, la région, en fait, l'ensemble des collectivités, on est parti du principe qu'il y a des choses qui ont un coût, notamment l'équipement, et d'autres qui n'en ont pas. Et dans les thématiques qu'on a développées, on a eu le souci de proposer pratiquement la moitié sans équipement particulier, ou des activités débranchées, par exemple, le code, on peut très bien travailler autrement, travailler sur les algorithmes sans être forcément face à des écrans, on sait combien aujourd'hui ça peut avoir du sens, ou bien simplement sur data et compréhension du monde, ou mixité numérique, on n'a pas besoin d'avoir. Voilà. Donc ça nous a tenu à cœur. Mais ce qui est profondément gratuit, c'est l'intelligence. Et donc l'intelligence du faire, c'est travailler en gouvernance partagée avec des gens qui sont aussi intéressés que nous à la réussite des élèves. Et je veux parler des collectivités. Et ça, c'est possible. Et souvent, on nous dit, bon, ce sont deux mondes à part, mais bien sûr, on est deux mondes à part. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se rencontre pas, et moi, je crois à ce type de rencontre. Et ça, c'est reproductible.
Et si on parle d'un autre monde, si on parle du monde de l'inclusion numérique, bien qu'il y ait des ponts évidents, hein, de toute façon, dans toute cette histoire entre numérique éducatif, numérique inclusif, on sait aujourd'hui que les conseils numériques sont nombreux sur le terrain, encore aujourd'hui, que dans leur public qu'ils accompagnent, il y a peut-être des efforts à faire, on le sait, on a vu les statistiques sur la jeunesse, peut-être auprès des parents, qui sait. Quels sont les ponts faisables aujourd'hui, ou est-ce que vous les faites déjà, finalement, avec ce monde de l'inclusion numérique, de la médiation numérique, telle qu'on l'appelle?
Alors, déjà, la parentalité numérique, elle a un accès à la médiation, dans la mesure où quand les parents découvrent que leurs enfants ont des activités numériques à l'école, qu'elles sont encadrées, donc médiées, ben ça leur ouvre des perspectives pour peut-être faire la même chose à la maison. On a eu l'exemple avec... parce que quand on va voir dans les écoles comment ça se passe, on invite les parents, évidemment. Parce que, bon. Et donc, on a discuté avec quelques mamans, et c'est vrai que c'était des femmes, qui nous disaient que au début, elles utilisaient le code de leurs enfants pour aller sur l'ENT, et que grâce aux ateliers qu'elles avaient suivis, elles avaient compris qu'elles en avaient un à elles, qui étaient totalement indépendants et qui faisaient qu'elles étaient autonomes quand elles voulaient aller voir sur l'ENT ou Pronote ou voilà ce qu'il en était des résultats de leurs enfants. Donc elles reprenaient la main. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Et donc elles nous expliquaient ça. Donc je pense qu'il y a il y a ce lien là. L'autre point, c'est quand on a travaillé avec les établissements scolaires sur les campagnes de bourse. Et où souvent les familles disaient, nous, c'est notre enfant, parce qu'on ne parle pas bien le français, parce qu'on lit mal, bref, qui est le médiateur, si vous voulez. Bon. Et bien, dès l'instant où les familles prennent confiance et où elles savent qu'il y a des médiateurs numériques à la CAF, enfin, dans les maisons France Service, enfin, autour d'elles, parce que cette information, nous la faisons aussi, et avec parentalité numérique notamment, ben voilà, c'est plus l'enfant qui est au centre, et il reste un enfant. C'est les parents qui reprennent leur statut et ça change tout.
Merci. Et à l'instant T, on a bien vu toutes les actions et la structure, la manière dont vous les avez déployées. Si demain il vous fallait quelque chose pour aller plus loin dans ce projet, ce serait quoi? Sur tous les plans, question grandement ouverte.
Oui. Alors, de l'intérêt, ça on en a, de l'enthousiasme, je crois, avoir essayé de vous le faire partager, c'est du temps. Parce que franchement, de l'argent évidemment toujours, mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ça a du temps. C'est-à-dire quand dans une direction de région académique du numérique pour l'éducation, on a ce type de projet, c'est fantastique. Mais c'est ce projet plus les autres, et on n'a pas forcément plus de personnel. Et ça, c'est complexe. Et c'est exactement la même chose pour les collectivités quand elles nous disent, et elles ont raison, vous nous demandez un chef de projet face à vous pour pouvoir justement. Mmh. Avoir un référent, et comment fait-on? Donc c'est toute cette question du temps alloué, qui derrière se traduit par la mise à disposition de personnel, hein. Donc quelque part il y a aussi de l'argent, bien évidemment, mais je crois que c'est le type de projet, et vous l'avez très bien souligné, qui énerve tout, L'inclusion numérique, la parentalité numérique, au sens large, pas que numérique, c'est-à-dire comment des parents reprennent la main.
Bien sûr.
Souvent dans des familles monoparentales aussi, parce que ça, je crois qu'il faut le souligner. Voilà, ce sont des projets d'envergure. Et il y a un autre élément que j'ai pas souligné, j'ai eu tort. Mais il y en a deux qui, moi, me tiennent particulièrement à cœur. C'est d'abord, je vous l'ai dit, la gouvernance partagée, pour moi, ça, c'est fondamental. Et de voir que de toutes petites communes vont chercher de l'info dans de grandes communes, quand on se retrouve en comité stratégique. Hein, et il y a des échanges, beaucoup de solidarité. Quand une commune est en difficulté ou une communauté de communes, on se déplace avec le département. Et il y a une espèce de connivence qui s'est créée grâce à ce projet. Je trouve que c'est, enfin, quelles que soient les étiquettes politiques, j'ai pas souligné ça. Ouais. Mais c'est quand même très vrai. Et un autre point qui est peut-être le lien de tout ça par rapport au projet et aux thématiques qu'on a lancées, c'est l'oralité. C'est-à-dire que, au travers des web radios, au travers des équipements qu'on a pu avoir et à l'école et au collège et au lycée, on a créé une espèce de cordée sur un territoire où le lycée s'intéresse au collège grâce à la radio, puisqu'on fait des podcasts qui sont partagés, on a une plateforme professionnelle pour le faire. Les écouter, y compris du collège vers l'école, donc il y a cette espèce d'intérêt. Il y a des résidences de journalistes, donc on donne un côté professionnalisant qui vaut tant pour les élèves que pour les professeurs, qui apprennent aussi beaucoup, et ils sont très heureux, je crois. Dès l'instant où un élève sait s'exprimer, ça lui ouvre un champ des possibles extraordinaire. D'une part, les filles prennent la parole, ce que souvent elles n'osent pas faire, à l'école, mais là, comme il y a un micro, voilà, c'est détourné, c'est plus pareil. Et l'installation de la langue française pour des enfants qui ne sont pas très à l'aise des primo-arrivants ou des ENAF, ou, bref, ben, ça passe par là aussi. Donc, il y a un scripteur, souvent celui qui écrit, c'est pas celui qui parle. Après, celui qui parle. Et puis, on inverse les propos et on a, autour de l'oralité, une élévation pour les enfants de tout ce qui se fait. Et ça, c'est fondamental.
Donc, encore un médium qui permet, à travers le numérique, parce qu'on parle de podcast de contribuer à l'éducation et à la montée en compétences sur ces sujets. Donc, on a entendu quelques clés durant cet échange. J'ai compris que, en tout cas, et là, je parle sous votre contrôle, il faut s'appuyer sur une gouvernance partagée, ou en tout cas, où on met au centre des objets partagés comme le diagnostic, où on discute les sujets et on s'appuie les uns sur les autres. Lorsqu'on est dans ce consortium, on va l'appeler comme ça, j'imagine. Derrière, ça permet, au niveau métier aussi, si on ouvre aux autres métiers, de monter en compétences. Alors là, j'ai compris qu'il fallait organiser pas mal de rencontres aussi, de formations sur le sujet. Côté parentalité numérique, donc là, on est sur un gros enjeu pour redonner le contrôle sur la parentalité éducative, entre guillemets, au travers aussi des outils numériques. Et pour ça, vous avez trouvé des canaux. J'ai entendu des associations... la politique de la ville notamment. Et puis, je crois comprendre qu'il faut quand même du temps. Un chef de projet, on a entendu, ou autre, mais c'est vrai que finalement, c'est souvent l'histoire d'un choix aussi, d'affecter peut-être une ressource humaine sur tel ou tel sujet, pour aussi faire interface et animation, j'imagine, un peu de tout ça. Et ce qu'on note aussi, c'est peut-être qu'il y a des actions, et on pourra regarder a posteriori là, lesquelles vous disiez qu'il n'y avait pas eu forcément d'investissement en équipement à faire pour mener des actions, à transmettre peut-être aux autres territoires. En tout cas, ça va être en description. On va essayer de mettre un maximum de choses en description du podcast. Que on a tout dit, ou est-ce qu'il y a un dernier conseil à livrer à nos auditeurs, auditrices qui aimeraient potentiellement se lancer depuis leur fonction, leur organisation, leur structure dans un projet de numérique éducatif?
À la communication, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est fondamental. Alors, d'une part, les plateformes, comme je vous disais, qui permettent d'échanger des informations pour que tout le monde ait le même niveau
de connaissances.
Mais aussi la communication, j'allais dire interpersonnelle, interstructure et vers l'extérieur, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait connaître un projet et qu'on le fiabilise. Sinon, on passe sous les radars et il n'y a rien de pire.
Donc, faire connaître l'initiative.
Voilà, la partager. en parler au, chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, et merci de me permettre de le faire aujourd'hui.
Avec plaisir.
Parce que convaincre, c'est aussi réussir.
Bon. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci à vous, Louis. Merci.
Ces projets de territoire numérique éducatif semblent proposer des pistes opérationnelles pour, dès le plus jeune âge et avec les parents, contribuer à un meilleur usage du numérique des jeunes. Nous espérons que vous aussi, dans le département d'Occitanie, vous souhaiterez engager ce type de démarche. Pour cela, retrouvez également donc la documentation évoquée disponible, issue de Territoire numérique éducatif Héros, en commentaire de ce podcast. À bientôt.
Cet épisode vous a été proposé par Lamélé Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamélé.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine by Lamélé et la cantine Toulouse.